Espace femme.
Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous hebdomadaire Espace Femmes du studio Kalangou consacré aux questions d'actualité ou de société qui concernent particulièrement les femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin, comment développer son entreprise. Le Centre national de promotion de l'entrepreneuriat féminin du Niger définit l'entrepreneuriat féminin comme le processus par lequel une femme ou un groupement de femmes développe une structure économique et sociale avec des moyens matériels et financiers où travaillent une ou plusieurs personnes de manière organisée pour fournir de biens ou de services en vue de réaliser un bénéfice. Au Niger, ces dernières années, on constate que beaucoup de femmes et de jeunes femmes embrassent le domaine de l'entrepreneuriat de manière informelle. Cependant, certaines d'entre elles rencontrent des difficultés dans leur activité pour des raisons que nous allons tenter d'énumérer dans cette émission et par la même occasion proposer des pistes de solutions. Comment se porte l'entrepreneuriat féminin au Niger? Pour quelles raisons les femmes investissent dans ce secteur? Quelles sont les contraintes auxquelles elles font face? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous recevons dans ce studio une femme entrepreneur, Madame Fatouma Kefi.
Bonjour Madame.
Et nous avons aussi Madame Mahamadou Nana Belkissa, chef de service appui à l'entrepreneuriat féminin. Bonjour.
Bonjour Madame.
Et nous avons aussi en ligne Madame Loutou Reyanatou qui est la présidente du réseau des femmes chefs d'entreprise du Niger. Et à la présentation, je suis Samira Rouafi. Bienvenue à vous, chers invités. Avant de commencer, j'ai une question pour vous, Madame Fatouma Kefi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience en tant que femme entrepreneur?
Et bonjour, Madame.
Bonjour.
Je suis heureuse d'être dans votre studio Kalangou. Et je me nomme Madame Fatouma Kefi. Je suis la promotrice de l'entreprise Fanta House et la présidente du groupement Femmes Émergentes du Niger. Donc, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2017. Et je suis dans la transformation des céréales agroalimentaires. Donc, je transforme tout ce qui est céréales issues de notre agriculture locale. Et le riz, le mil, le sorgho, le maïs que je fais en produits finis comme les couscous, les farines, les dédiés et les grimaux. Et tout est pré-cuit. Donc, j'ai 6 employés, 4 permanentes et 6 temporaires. Au nombre, ça fait 10 employés que j'emploie. Et ce qui m'a poussée à entreprendre, j'ai vu qu'il faut travailler pour lui-même et être autonome. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un, tu n'es pas indépendante et tu n'es pas autonome. Il arrive des difficultés, c'est pas facile. Il y a la situation familiale, tu dois gérer tes enfants, tu dois gérer ton foyer et tu dois avoir un temps libre à toi pour te reposer. Mais quand tu travailles pour quelqu'un, c'est pas facile. Pour joindre les deux bouts, prendre un salaire à la fin du mois, ça ne peut pas résoudre le problème. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle où on est dans ce pays, parce que quel qu'en soit le montant que tu touches comme salaire, c'est vraiment insuffisant. Donc c'est ce qui m'a poussé à entreprendre. Et quand je faisais les tours dans les alimentations pour prendre mes ravitaillements, je faisais ce que font les dames. Et je me suis dit, pourquoi ne pas commencer la transformation agroalimentaire? Quand j'avais commencé, je n'avais aucune expérience avec ce que j'ai appris à la maison, en famille. C'est avec ça que j'ai commencé. Mais avec la volonté, et on a eu beaucoup d'appui dans les formations à travers la chambre de commerce. On a eu beaucoup d'appui. Il y avait chaque semaine, il y a des séries de formations qui nous a beaucoup poussé et qui nous a beaucoup ouvert les yeux. À travers ça, il y a AgriPro Focus qui nous a accompagnés aussi. Et dans les formations, tout ce qui est hygiène, qualité, marketing, il y a aussi le CCA, Centre culturel américain. Ils m'ont beaucoup aidé aussi dans les formations. Donc, ça m'a beaucoup motivée et ça m'a beaucoup permis d'aller de l'avant. En 2018, j'ai commencé à exposer au Sahel, au foire Sahel. À la foire, donc, j'avais amené mes produits, je n'avais pas beaucoup d'expérience, les étiquettes, il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Mais avec les partenaires qui venaient visiter, avec les partenaires de l'État, avec les partenaires privés qui venaient et les banques, on a reçu beaucoup de conseils. Et c'est ce qui nous a permis d'améliorer nos produits, nos emballages et nos étiquettes pour préparer le Sahel 2019. Et heureusement, avec le Sahel 2019, j'ai reçu un prix. Et le deuxième prix du président de l'Assemblée nationale qui m'a permis encore d'investir dans mon entreprise pour agrandir l'entreprise. Parce que quand j'avais commencé, j'étais seule dans ma cuisine avec un budget de 22 500 €.
Ça, c'est très intéressant. Nous allons en revenir tout à l'heure quand nous irons plus loin dans ce débat. Je reviens vers vous, Madame Belkissa. Que pensez-vous de ce qu'elle vient de dire par rapport à l'entrepreneuriat féminin? Au début, elle était fonctionnaire d'État ou dans un secteur privé et là, elle a décidé d'embrasser la carrière d'une femme entrepreneur. Que pensez-vous de ça?
Merci, Madame Savera. Ce qu'elle vient de développer, ça va à l'esprit de ce que nous faisons à la Chambre de commerce. C'est-à-dire que nous sommes là pour les encourager, pour les aider à s'améliorer et pour être avec elles à chaque niveau de leur activité. Donc, permettez-moi de dire que la Chambre de commerce a mis en place un service dédié spécifiquement à l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Ce service a été mis en place en 2000. Donc, aujourd'hui, ça fait 21 ans que nous sommes là pour les femmes entrepreneurs. Parce que les politiques, aujourd'hui, ont démontré que les femmes contribuent dans le développement économique du pays. Aussi, il faut être avec elles pour les encadrer, comme ce qu'elles viennent de dire, à travers des actions de formation, de sensibilisation, d'accompagnement avec les différents partenaires œuvrant dans le même cadre et aussi avec des réseautages. Nous avons aussi accompagné les femmes entrepreneurs dans les activités des foires, les expositions, tant au niveau national qu'au niveau international. Nous les accompagnons. Et le service d'appui à l'entrepreneuriat féminin aussi, ça, les activités sont d'ordre national. C'est-à-dire que nous avons fait toutes les régions du Niger, nous avons eu à encadrer les femmes entrepreneurs au niveau national.
Quel regard portez-vous sur la femme entrepreneur ici au Niger?
Aujourd'hui, on peut dire que la femme entrepreneur évolue positivement.
En ce qui concerne l'entrepreneuriat, on peut dire que la femme nigérienne se démarque de celle de la sous-région. Quelle comparaison pouvez-vous faire à ce sujet?
Bien. Ça me permet de parler d'une des activités du service d'appui à l'entrepreneuriat féminin qui est le partage d'expériences. Nous sortons avec les femmes entrepreneurs dans les pays de la sous-région pour nous inspirer de leur expérience. Donc, ce qui nous permet d'être
au même niveau
qu'elles et de pouvoir nous perfectionner. S'il faut encore s'améliorer, ça nous, à travers les voyages d'études que nous organisons, en tout cas, nous essayons, nous nous améliorons.
Oui. Dites-moi, quel rôle joue la Chambre de commerce et quelle est sa contribution pour aider les femmes entrepreneurs ici au Niger?
La Chambre de commerce et d'industrie du Niger est une structure d'accompagnement du secteur privé en général. Et spécifiquement, le service d'appui à l'entrepreneuriat féminin met en exergue les activités féminines, les activités des femmes entrepreneurs au niveau national. C'est ce que je viens de vous détailler tout à l'heure à travers les actions que nous faisons à l'endroit de ces femmes entrepreneurs.
La COVID-19 a significativement impacté le secteur économique du pays. Les activités des femmes entrepreneurs étant partie intégrante de l'économie du pays ont été touchées par l'arrivée de cette maladie. En mai 2020, l'État du Niger a annoncé la mise en place d'une ligne de crédit bancaire de 150 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises affectées par la crise. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Est-ce que toutes les entreprises privées y ont droit? Sinon, quels sont les critères d'attribution?
Bien, par rapport à ce volet de mise en place de 150 milliards à l'appui au secteur privé, les femmes entrepreneurs en général n'ont pas pu bénéficier de ce volet parce qu'elles ne répondent pas aux critères posés par le gouvernement. Ce qui fait que nous avons contacter d'autres partenaires qui peuvent appuyer ces femmes entrepreneurs-là, telles que le FISAN. Au niveau de la Chambre de commerce, nous avons tenu une réunion avec le FISAN et les responsables de certaines structures féminines, comme le REFSEN, pour avoir les facilités qu'accorde le FISAN pour ces femmes entrepreneurs-là. C'est une des activités que nous avons eu à mener pour
appuyer
ces femmes.
Si je comprends, c'est le rôle qu'a joué la Chambre de commerce.
En tout cas, oui.
On va continuer avec vous, Madame Fatouma. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Vous venez tout juste de nous répondre à cette question, mais j'ai besoin de plus de détails. Et est-ce que les débuts ont été difficiles? C'est surtout ça qui m'intéresse.
Voilà. Et les débuts ont été difficiles parce qu'on sait que tout début est difficile, est très difficile en fait. Parce qu'en tant qu'employé de banque, décider d'abandonner le service bancaire pour venir entreprendre avec ce qu'on ne sait pas si ça va aboutir ou pas, c'est très difficile. Donc quand j'avais avisé ma famille, mon entourage pour dire que je vais abandonner ce que je fais, on me dit mais ça ne va pas chez toi, avec 20 ans d'expérience, tu vas dire que tu vas abandonner ton travail ou on te paye à la fin du mois. Avant le 30, tu as un salaire cash et maintenant tu vas dire que tu vas faire quelque chose que tu viens de commencer. Tu ne sais même pas si ça va aboutir. J'ai dit oui, c'est ma passion et je vais tenter. Qui ne risque rien ne gagne rien. Donc, je veux et je veux le faire. Quand j'ai avisé mon époux, il m'a dit que va, je t'encourage. Donc il m'a encouragée et à faire ce travail-là. J'avais commencé la transformation avec un budget de 22 500 francs CFA. Je n'ai pas attendu un partenaire pour me donner quelque chose. Je n'ai pas cherché un local pour le faire. Et je l'ai commencé dans ma cuisine avec ma bonne. J'ai commencé dans la cuisine. Et j'ai commencé la promotion de bouche à oreille avec les fondus, les cérémonies. Quand je partais, je mets dans ma voiture et je circule avec. Et entre-temps, quand je vais dans les alimentations, je fais les tours des rayons et je vois, j'ai fait l'étude du marché pour voir ce que les autres femmes ont amené. C'est parce que c'est ça, les concurrentes.
Mm-hmm.
J'ai fait l'étude du marché pour voir quel prix, est-ce que ce que je vends, est-ce que ça répond à ce que je fais.
Mm-hmm.
Est-ce que la demande, j'ai posé des questions au niveau des gérants pour voir les produits-là qui sont exposés, est-ce que ça sort. Donc après quelques temps, j'ai demandé, est-ce que je peux amener mes produits dans les rayons pour exposer. Au début, c'était difficile parce que quand j'amène mon produit pour présenter, c'est mal présenté
oui.
par rapport à celle que j'ai trouvée.
Mm-hmm.
Donc on me disait non, non, et j'ai négocié difficilement. Bon, il y avait l'alimentation qui était vers la francophonie. Et je ne vais pas prononcer le nom parce que ça va faire la publicité.
Mmh.
C'est eux qui m'ont accordé et le droit d'amener mes dégâts pour exposer. Et j'avais commencé là-bas. Quand j'avais déposé mes produits, une semaine après, il m'a rappelé pour me dire que le produit est fini. Il faut amener. Et ça m'a motivée encore. J'ai continué et j'ai fait le tour de Niamey pour voir encore d'autres alimentations. Je vous assure que c'était difficile. Parfois, quand on va dans les alimentations avec les gérants, on sort avec des larmes. Parce que quand tu amènes de tes produits, non, 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 on n'a pas de la place, tout ça là. Mais on ne se fatigue pas.
Mm-hmm.
Qui cherche doit avoir le courage et doit supporter tout.
Oui.
Donc, je continuais comme ça. J'ai continué jusqu'à 2018, 2019. Là, j'ai eu beaucoup d'alimentation parce que avec les formations que je disais de la Chambre de commerce AgriProfocus et le CCA et avec le réseautage des femmes. Parce que quand on est en réseau, on cause entre nous, on s'entraide. Avec les emballages, avec les étiquettes.
Mm-hmm.
Même le produit, quand tu as des difficultés, tu appelles une de ces dames pour demander. Il y a des dames qui te disent le secret, comment il faut faire.
Mm-hmm.
Parce que j'ai une dame que je ne peux pas oublier, qui nous répond au nom de Fatah Amidou. Quand j'ai des problèmes sur la transformation, quand j'appelle la dame, elle me dit comment il faut procéder pour arriver au produit final.
Mm-hmm.
Et ça m'a beaucoup aidée. Et là, j'ai pu gagner des rayons où je mettais mes produits. Il y a même des gens qui viennent jusqu'à la maison pour commander. Comme ça, les partenaires sont venus me visiter. Et le succès que j'ai eu, c'est lors du Sahel 2019. Quand j'étais sortie avec mes produits pour exposer tous les partenaires qui ont passé à notre stand, parce qu'on a fait un registre de visite clients et partenaires, on a eu beaucoup d'encouragement et beaucoup de félicitations. Parce que quand en 2018, quand j'étais venue exposer, c'était pas pareil. Ils ont comparé les produits que j'ai amenés en 2018 et en 2019. Et quand j'ai compéti à la compétition du Sahel, j'ai reçu le deuxième prix du président de l'Assemblée nationale d'une valeur de 2 500 000.
Mm-hmm.
Et ça m'a motivée. J'ai investi ça dans l'entreprise parce qu'on sait que dans l'entrepreneuriat, il faut des équipements, surtout dans le cadre de la transformation.
Exactement.
On a beaucoup besoin des équipements. Donc, j'ai investi, j'ai acheté mes équipements et j'ai un peu arrangé mon local parce qu'avant, j'étais sous un hangar où je faisais la transformation. C'était difficile.
Mm-hmm.
On ne peut même pas transformer plus de 10 tiers par jour parce qu'on a un espace. Il faut bien protéger le produit
mm-hmm.
pour sécher.
Mm-hmm.
Donc, avec ça, j'ai investi, j'ai eu un séchoir. J'ai encore un peu aménagé le local et j'ai continué à aller de l'avant. Et avec ce prix que j'ai reçu, j'ai été lauréate et c'est ce qui m'a permis de faire des voyages d'études à l'international
mm-hmm.
avec le ministère de l'Agriculture.
Mm-hmm.
J'ai été amenée à N'Djamena avec d'autres femmes transformatrices aussi. Après N'Djamena, on a fait la Tunisie, on a fait Abidjan, on a fait la Chine.
Mm-hmm.
Et donc, ça nous a beaucoup motivés. Et quand on était à l'international, je vous assure que le Niger, et le ministre même a remarqué que vraiment les femmes se battent au Niger. Et dans le cadre de la transformation, les femmes font beaucoup. Parce que quand on était à N'Djamena. Le président Idriss Déby, il dit à sa femme, regardez ces femmes nigériennes. Regardez comment le Niger est en avance sur nous dans le cadre de la transformation. Et ça nous a motivés. Et le ministre était content parce que tous nos produits qu'on avait amenés étaient achetés.
Mm-hmm.
Donc, ça motive. Et j'ai continué. Et pour préparer encore le Sahel 2020, non seulement je n'attends pas les foires uniquement pour faire mes produits. Chaque jour, je fais la production. On travaille du lundi au samedi. Donc, je fais le tour des alimentations. Je continue de 2 alimentations à 3. Aujourd'hui, j'ai plus de 14 alimentations où je dépose mes produits. Et sans compter à l'international, via les connaissances, les gens qui envoient pour prendre nos produits. Et mes produits sont en voie de certification. Il y a déjà le couscous de riz, le dambou kondi qui est certifié. Et avec l'appui de AgriPro Focus et l'accompagnement de Oxfam, le couscous de riz est certifié. C'est une fierté pour avoir un produit nigérien qui est certifié. Et maintenant, avec l'appui des 3N, les 3N aussi a beaucoup fait pour nous. Ils nous ont accompagnés dans les foires et même dans les financements avec les formations. Et maintenant, ils sont en train de certifier d'autres de nos produits aussi. Donc, c'est une fierté. En 2020 aussi, j'ai postulé. Et le produit que j'ai innové m'a permis encore d'avoir le plus grand prix du Sahel d'une valeur de 5 millions et qui m'a permis aujourd'hui, je ne veux pas dire que j'ai une petite unité de transformation parce qu'avant je transformais à peine 10 tiers de produits par jour. Aujourd'hui je peux faire 5 kilos voire 150 kilos par jour. J'ai un espace où j'ai aménagé pour mon entreprise et il y avait d'autres médias qui sont partis pour visiter. Et je suis passée sur les réseaux sociaux, dans les médias, à la télé, à la radio. C'est une fierté. Je veux dire que je ne peux même pas comparer ce que j'ai reçu en 3 ans dans l'entrepreneuriat et ma vie de fonctionnaire pendant 20 ans. Donc vraiment, je veux dire que c'est du succès pour moi.
Nous allons revenir sur les difficultés que vous avez rencontrées. Nous avons, je crois, en ligne la présidente des femmes entrepreneurs, Madame Rayane, du réseau des entrepreneurs plutôt. Vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne. Bonjour.
Bonjour, madame. Vous allez bien?
Je vais bien, alhamdoulilah, et vous-même?
Oui, ça va. Vous êtes sur le forum Espace Femme du studio Kalangou. Et ma première question, c'est pourquoi la création d'un réseau pour les femmes entrepreneurs?
D'accord, merci. Alors, donc, pourquoi la création? C'est parce que, comme on dit partout, l'union fait la force. Alors, le réseau des femmes chefs d'entreprise, le REFCEN, c'est une organisation qui est dans la sous-région. C'est-à-dire qu'au Togo, au Bénin, à Abidjan, il y a ce même réseau-là qui fait que les femmes chefs d'entreprise se mettent ensemble pour la sauvegarde de leur intérêt, pour la promotion de leur entreprise. Et comme vous le savez, comme je viens d'écouter celles qui m'ont précédé, il n'est pas facile en Afrique d'être femme chef d'entreprise. Je dis bien chef d'entreprise, pas entrepreneur, parce qu'on peut être entrepreneur et à la maison, mais chef d'entreprise, ça veut dire que vous êtes dehors, vous avez une entreprise, vous avez du personnel à gérer. Et souvent, du personnel même masculin, qui n'est pas évident, pour lesquels il n'est pas évident que la femme soit leader. Donc, c'est là que vient toute notre difficulté. Et c'est la raison de la création de ces réseaux où on se retrouve, nous échangeons nos difficultés, nous essayons de trouver des solutions. Parce que quand on se rend compte qu'on n'est pas seul dans un problème, c'est un grand pas vers la résolution des problèmes. Et entre nous, on se donne la main, on se donne les solutions et ensemble, on cherche les appuis, mais surtout, le REFCEN, c'est plutôt une organisation qui tend la main aux autres. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau du REFCEN Niger, vous avez les membres titulaires et les membres auxiliaires. Donc, les membres titulaires, c'est les membres qui sont déjà installés, qui essayent d'aider les autres à s'installer dans le formel et à agrandir leur entreprise. Donc, c'est une des raisons de la création du REFCEN. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de milliards brassés à la maison. Les femmes nigériennes travaillent, mais ce n'est pas visible. On a, et comme exemple que je donne souvent, c'est le grand marché de Niamey qui est rempli d'hommes. Alors que quand vous comparez à Assigamé, à Lomé, c'est les femmes. Donc ici, à Niamey, disons, les hommes ont pris notre place. C'est les hommes qui commandent les pagnes pour nous. C'est les hommes qui commandent les tissus que nous portons. C'est les hommes qui vont chercher les ustensiles de cuisine. Et je pense que vraiment, et les femmes font la même chose, mais à la maison. Donc, on a voulu que ces femmes sortent au grand jour et qu'elles et qu'elles se manifestent aussi et que ce soit visible comme au Togo pour les Nanaf Dens, qui est une grande force nationale à cause de leur activité commerciale.
Ok. Disposez-vous de chiffres officiels concernant le nombre de femmes chefs d'entreprise ici au Niger?
Je n'ai pas tous les chiffres, mais à notre niveau, nous avons une quarantaine de femmes chefs d'entreprise et plus de 100 auxiliaires. C'est-à-dire que des femmes en passe de devenir femmes chefs d'entreprise, en passe de créer une entreprise formelle.
Ok. Est-ce qu'elles sont toujours dans la course, ces femmes que vous avez aidées?
Oui, elles sont dans la course. On a rien que le mois dernier, nous avons eu 3 nouvelles adhésions. Nous avons de nouvelles demandes d'adhésion.
Plusieurs femmes se plaignent du manque d'accompagnement. Quelles sont les actions que vous avez menées pour les soutenir?
Alors, nous menons plusieurs actions. C'est pas forcément. En fait, les gens, il ne faut pas qu'ils voient un accompagnement comme forcément de l'argent. Il peut y avoir de la formation, des échanges d'expériences. Tout ceci, nous le mettons dans le compte de l'accompagnement. Quand vous venez de commencer une activité et que vous avez une personne dans le domaine qui a plus de 20 ans, 30 ans d'expérience qui vous guide, je pense que c'est un grand, grand, grand pas déjà, et parce que cela va vous éviter beaucoup d'erreurs et c'est un accompagnement pour nous. Nous n'avons pas forcément de l'argent à donner. Comme vous savez, le climat des entreprises au Niger est tel que nous faisons. Il y a des femmes chefs d'entreprise qui sponsorisent d'autres. Hein. Nous payons des bourses aux jeunes filles qui veulent aller pour des professions un peu spéciales. Et même des jeunes filles qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, nous les épaulons. Donc, c'est aussi, je pense, un appui que nous donnons. Il n'est pas forcément financier, mais c'est un accompagnement qui est moral et c'est beaucoup pour nous.
Parlons toujours d'accompagnement. La COVID-19 a beaucoup impacté l'activité des femmes. Quelles sont les actions que vous menez pour les venir en aide en ce temps de pandémie?
Bon, disons, la COVID-19... Nous sommes entrepreneurs, donc victimes de la COVID-19. Donc, je pense que les accompagnements pour la COVID-19, c'est plutôt les États qui le font, les gouvernements et les organisations internationales, mais pas les entreprises qui sont elles-mêmes des victimes.
Restez toujours à l'écoute. On va écouter à présent notre rubrique portrait qui nous amène à la découverte d'une entreprise locale, celle de Madame Liman Aminato Isiaku. On l'écoute et on revient au studio.
Les activités de l'entreprise de transformation des céréales de Madame Liman Aminato Isiaka ont débuté en 1998 de manière informelle. Grâce à la forte demande pour leurs services, Aminato a jugé nécessaire de formaliser la firme 10 ans après. Madame Liman Aminato est aujourd'hui à la tête de l'entreprise qui emploie une dizaine de femmes qui auparavant étaient dans le besoin.
On a débuté l'activité en 1998 sous forme de groupement. On se réunissait une fois par mois. Voyant l'allure que prend la transformation, on a essayé de se formaliser, de créer l'entreprise de transformation. On a commencé avec une mesure, deux mesures, et actuellement on est à 200, 300 kilos par jour. Dans la semaine, 5 fois, on transforme le mil, le sorgho, le riz, le fonio, l'arachide, et sous plusieurs formes. On fait le dégué de mil, sorgho, dégué de fonio aussi. On fait le couscous de riz, couscous de mil, sorgho, la farine aussi. La farine de bouillie et la farine des enfants. On fait aussi des épices. Et il faut qu'on sait ce qu'on mange, que c'est nos produits cultivés par nos producteurs. On avait commencé à 2 et actuellement on est à 15. Et la majorité sont des femmes. Il y a des veuves. Il y a ceux qui n'ont pas à quoi manger, mais ils arrivent maintenant à subvenir leurs besoins.
Pour Madame Liman Aminato, maintenir l'entreprise sur les rails n'est pas chose aisée, car selon elle, les petites entreprises comme la sienne font face à quelques exigences du terrain telles que
les impôts, les taxes et les équipements. Elle n'a pas assez d'équipements pour la transformation. Le séchoir, on n'a pas le séchoir à grande capacité. L'emballage nous fait défaut. Il faut aller dans les pays voisins pour avoir l'emballage. Et vous voyez maintenant, avec la pandémie de Covid, c'est difficile. Des crédits, parce que deux fois, certaines banques trouvent que l'activité n'est pas aussi fiable pour leur donner un montant important.
Malgré toutes ces difficultés, l'entreprise de transformation de céréales arrive à tenir la tête hors de l'eau. Les employés apprécient les efforts de la promotrice pour leur offrir ce travail.
On ne peut que dire Dieu merci parce que les affaires marchent très bien. On n'attend pas le geste des hommes. On les aide même de temps en temps par rapport aux besoins des enfants pour des tenues scolaires, les bics, les cahiers et autres. On fait de notre mieux. Il n'y a aucun problème ici. On vit et travaille dans l'harmonie. À la fin du travail, on se félicite et se remercie les unes les autres.
Alhamdulillah, l'entreprise de Hajia rend grâce à Allah. Tout va pour le mieux puisqu'on arrive à faire le travail comme on l'entend. Si on a des besoins, on arrive à les faire grâce à ce travail. De toutes petites choses, on arrive à les gérer. Il n'y a aucun problème ici. Tout se passe.
Avec l'appui d'une ONG, l'entreprise de Hajia Aminatou Isiaka est-elle une école, car elle a formé plus de 500 femmes dans les régions du pays. Âgée aujourd'hui de 51 ans et mère de 5 enfants, Aminatou Isiaka continue de lutter pour l'autonomisation des femmes nigériennes.
Nous venons d'écouter à l'instant le portrait de Madame Aminatou Isiaka. Dites-moi, Madame Balkissa, quelle appréciation faites-vous de cette entreprise qui a fait 10 ans?
Merci. Donc c'est une entreprise, l'entreprise de Madame Lima Aminatou est l'une des entreprises phares aujourd'hui au Niger, parce que c'est une entreprise qui a évolué comme Fanta. Elle vient de dire qu'elle a commencé avec des mesures et aujourd'hui elle est à plus de 2 à 3 sacs par jour. Donc c'est vraiment une entreprise en perpétuelle évolution.
Mm-hmm. Merci. Vous êtes toujours en ligne, Madame Rayanatou?
Oui, je suis en ligne.
J'attends votre avis par rapport à cette entreprise qui a fait 10 ans.
Moi, je lui dis vraiment un grand bravo parce que je trouve que c'est vraiment très courageux de partir pratiquement de rien et de persister. Et la leçon que je retiens, et c'est une des grandes philosophies du RFCN, le réseau des femmes chefs d'entreprise, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir des grands moyens pour commencer quelque chose. Comme on dit, les petits pas font les grands voyages. Avec peu et beaucoup de volonté, je pense qu'on peut arriver à un bon résultat. Et surtout, il faut être persévérant. Et en début d'entreprise, on se dit qu'on part en aventure. Il ne faut pas s'alourdir de bagages soi-même. Donc, il faut rester vraiment très modeste soi-même et penser plus à son entreprise qu'à soi-même. C'est-à-dire que c'est vraiment un sacrifice. Et toutes les femmes chefs d'entreprise qui ont des entreprises savent que, on se le dit souvent, on pense plus à nos entreprises, à nos employés qu'à nous-mêmes. Et c'est vraiment une des clés de réussite d'une entreprise, c'est que le chef de l'entreprise se sacrifie vraiment pour la faire sortir, parce que l'entreprise, ce n'est pas que lui. C'est tout le personnel, c'est le pays. Il crée de l'emploi et c'est vraiment quelque chose de fondamental d'avoir un mental très fort et de ne pas trop s'appuyer sur des moyens financiers au Niger pour créer une entreprise. Parce que c'est souvent une erreur que font les gens d'attendre d'avoir de l'argent pour faire quelque chose ou non. La volonté d'abord, et avec peu de moyens, mesurer ce qu'on peut faire avec. On peut même, avec rien, on peut faire quelque chose. Donc vraiment, je lui dis un grand bravo et je lui souhaite vraiment plein de succès. Et elle est la bienvenue au RFCN.
Souvent, ici au Niger, on rencontre certaines difficultés qui sont des femmes qui veulent entreprendre. Elles commencent avec un petit crédit, soit les gens prennent ces choses-là à crédit et ne les payent pas, ou l'argent se met dans autre chose et elles finissent par abandonner. Que pensez-vous de ça?
Oui, donc Je pense qu'il y a une sensibilisation au niveau national même à faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'encourage entre nous. Au Niger, on a ce défaut, c'est de toujours préférer ce qui vient de l'extérieur. Et quand c'est chez nous, on connaît la personne, on prend, comme vous dites, à crédit et on ne paye jamais. Je suis dans un domaine, je suis architecte, c'est la même histoire, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous voyons des gens que nous connaissons, auxquels on fait confiance, qui nous demandent des projets. On fait de notre mieux pour leur donner le meilleur. Et souvent, vraiment, je vous le dis, beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs vous le diront, et on nous laisse, comme on dit, sur les carreaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé. Et souvent, on voit des plans qui arrivent de l'extérieur qui ne valent même pas ce que nous avons fait, mais qui sont payés à l'avance dehors. Donc, et souvent, j'ai souvent dit à mes gens, les gens qui viennent nous voir pour des projets, est-ce que si j'avais une boutique, vous pouvez venir remplir votre sac de marchandises et sortir sans payer? Mais malheureusement, entre nous, Nigériens, on se le fait, mais on ne le fera jamais à un étranger. Vous n'irez pas dans la boutique d'un étranger aller prendre des choses et ressortir. Mais quand c'est entre nous, surtout la famille, on le fait. Alors, et c'est ça qui tue l'entreprise, c'est vrai. Donc, il faut vraiment que les gens soient sensibilisés. Quand il y a un membre de votre famille, quand il y a une de vos connaissances qui a une entreprise, allez là-bas, de préférence, allez là-bas et achetez, payez pour la faire avancer. N'allez pas donner de l'argent cash ailleurs et chez la personne que vous connaissez, qui est souvent de votre famille, vous prenez à crédit et quand vous savez qu'elle ne peut pas vous poursuivre, elle ne peut même pas vous le demander, ben, vous laissez tomber. Donc, on tue les entreprises nationales dans l'œuf parce que comme on le sait au Niger, on est tous en famille, on se connaît tous et c'est pour ça que souvent les entreprises nationales n'arrivent pas à prospérer. Sans compter donc, les autres poids sociaux, mais il y a ce côté-là aussi qui fait effectivement les crédits qui ne sont pas payés et qui tuent les entreprises dès au départ. C'est-à-dire que comme vous dites, la personne investit et puis son investissement ne revient pas, elle n'a pas le retour d'investissement pour pouvoir rembourser. Donc souvent, elle se débrouille pour rembourser, elle laisse tomber. Parce que, bon, c'est comme ça. Et sans compter qu'à l'étranger, ailleurs, quand vous êtes dans notre pays, vous allez ouvrir votre boutique, personne n'ira acheter. Les gens iront de préférence chez leurs compatriotes. Souvent, ça se passe, je ne dis pas où, mais c'est pratiquement partout dans le monde, sauf au Niger. Donc, nous avons vraiment un sursaut, un grand sursaut national à faire. Et je remercie beaucoup la Chambre de commerce qui organise des salons pour les produits locaux, pour découvrir les produits locaux. Maintenant, il reste encore à franchir cette barrière, c'est-à-dire que à pouvoir acheter des préférences là-bas. Parce que malgré les salons des produits locaux qui se font, je vois beaucoup de produits qui font la concurrence quand même à nos produits locaux et qui continuent à rentrer. Donc, je pense que même là, nous avons besoin d'un appui du gouvernement pour nous aider. J'ai vu des grands pays où vraiment, quand un produit est produit localement, ben, on interdit son importation. Ou quand des grandes marques veulent, par exemple, du yaourt et beaucoup de produits laitiers, on a beaucoup de lait en poudre ici qui rentre, ben, on impose à ces grandes firmes de venir le fabriquer sur place et d'avoir un cachet local. Mmh. Donc je pense que c'est une façon de vraiment d'encourager l'entrepreneuriat féminin, pas féminin seulement, mais national, et surtout de résorber le chômage.
Restez avec nous pour la suite. Je reviens vers vous, Madame Fatoumata Kefi. Mmh. Est-ce que la COVID-19 a impacté votre activité?
Oui, la COVID-19 a impacté notre entreprise parce que quand la COVID était venue, on était au nombre de 10 employés. Mais avec la COVID, j'étais obligée d'arrêter les temporaires, qui sont au nombre de 6. Et on a continué, même les 4 permanentes, ce n'est pas tous les jours. Et les chiffres d'affaires ont baissé parce que les gens ne sortent pas, les produits ne sortent pas. Quand on fait des livraisons à domicile, c'est difficile. Tu n'es pas en contact avec ton client. Parfois, tu t'arrêtes au niveau du portail pour glisser le produit. On a eu beaucoup de difficultés et on a eu beaucoup de baisse de chiffre d'affaires et en 2020. Mais bon, cette année, ça va. On a recontacté nos temporaires qu'on avait arrêtés et elles ont recommencé le travail. Ça va, on arrive à récupérer quelques pertes qu'on a eu à faire.
Est-ce que vous avez bénéficié d'une aide quelconque?
Non, je n'ai jamais mis ça en tête. C'est bon d'avoir une aide, mais ce que je me suis dit, pour entreprendre, pour aller de l'avant, il ne faut pas attendre quelqu'un. Il faut commencer avec ce que tu possèdes. Et il faut avoir la motivation et il faut avoir le courage de travailler. Parce que quand on voit les gens qui investissent leurs sous pour faire le commerce ou bien quelque chose, c'est la même chose que l'entrepreneuriat. Quand tu veux le travail, tu investis en toi. C'est le partenaire qui va te chercher. C'est pas à toi de chercher le partenaire. Parce que le travail que tu fais, c'est ça qui va amener les partenaires envers toi. Et moi, c'est ce que j'ai pris. J'ai pris beaucoup de modèles des femmes. Comme Madame Lima, c'est une de mes conseillères aussi. Et Madame Lima Aminatou, que j'encourage beaucoup et je la félicite beaucoup. Elle fait partie d'une de mes conseillères. Et j'ai suivi leur exemple. Je n'attends pas quelque chose des partenaires. C'est bon d'avoir un partenaire qui peut t'accompagner. Et surtout, on a besoin de ces formations-là. On a eu beaucoup ces formations. Et quand tu as déjà des formations, parce que quand on regarde dans les autres pays, les gens payent les formations. Et ici, au Niger, nous, on reçoit les formations gratuitement. En tant qu'encadre, c'est un grand cadeau. Parce que au lieu de te donner l'argent pour faire quelque chose, on te montre le chemin, comment il faut le faire. Donc, tu peux le faire toi-même et arriver si tu es motivé, si tu as la volonté. Parce que si tu ne risques pas, il faut avoir la volonté de travailler. Et il faut prendre une bonne décision. Quand tu fais, tu demandes des conseils. Ce qui empêche aux dames d'avancer, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui ne cherchent pas des conseils, qui ne demandent pas aux autres. Et tant que tu ne demandes pas, tu ne peux pas avancer. Donc, les partenaires que j'ai reçu, c'est dans le cadre des formations, mais je n'ai jamais eu de financement de qui que ce soit, à part les prix que j'ai eu pendant les foires. Je n'ai jamais eu reçu de prix d'accompagnement en termes de système financier, mais les accompagnements que j'ai reçus, ça m'a beaucoup aidé. C'est ça les formations que j'ai dit avec la Chambre de commerce, avec AgriProFocus, avec les 3N, avec le CCA. Donc, ça m'a beaucoup motivée. Et je continue encore avec ça. Mais tout ce que je fais ça à fond propre.
Je reviens vers vous, Madame Belkissa. Dites-moi, quels sont les conseils et recommandations que vous pouvez nous donner, parce que vous êtes tout le temps en contact avec des femmes chefs d'entreprise et entrepreneurs, pour la bonne marche de l'entrepreneuriat féminin ici au Niger?
D'accord. Je voudrais d'abord à une question que vous avez posée à la présidente du REFSEN par rapport au nombre de femmes entrepreneurs. Donc, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger dispose d'un répertoire des femmes entrepreneurs au niveau national. À travers ce répertoire, nous avons les femmes selon leur domaine d'activité. Et le nombre, au 31 décembre 2020, nous avons 2041 femmes inscrites au répertoire. Ces femmes sont des femmes qui ont des entreprises formelles, c'est-à-dire qu'elles disposent au minimum d'un registre de commerce. Donc ce sont des entreprises formelles, en dehors des femmes de groupement que nous encadrons aussi à travers des séances de sensibilisation ou de formation. Et par rapport à un volet aussi que vous venez de développer relatif aux acteurs qui freinent le développement des entreprises ici au Niger, nous faisons des actions de formation sur la gestion même de l'entreprise, c'est-à-dire comment gérer sa caisse, comment accueillir la clientèle, comment, en tout cas sur le management, les partenaires aussi nous appuient pour toujours dans le cadre du développement des entreprises féminines ou bien des entreprises dirigées par les femmes. Donc l'appel que j'ai à lancer, c'est ça la question, l'appel que j'ai à lancer aux femmes entrepreneurs, je les encourage et les félicite. Et aussi, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger est là, à leur côté. Inch'Allah. Merci.
C'est sur ces souhaits que prend fin ce numéro d'Espace Femmes d'aujourd'hui qui a traité sur le thème « Comment développer son entreprise ». Nous étions en compagnie d'une femme entrepreneur Fatouma Kefi et de Madame Mahamadou Nana Belkissa, chef service appui à l'entrepreneuriat féminin. Et au téléphone, nous étions avec Madame Loutou Reyanatou, qui est présidente du réseau des femmes chefs d'entreprise du Niger, REFSEN. Et à la présentation, c'était Samira Rouafi. Mais je vous laisse avec notre rubrique Loti.
Affairage.
De la sorte.
Mariama, hey, mais dis-moi, c'est encore tes élèves qui te fatiguent comme ça jusqu'à tu parles toute seule.
Si seulement c'est le cas. En traversant la grande place, j'ai croisé une élève avec du bois sur la tête. Je lui ai demandé pourquoi elle n'est pas à l'école. Elle me fait comprendre que c'est sa mère qui l'oblige à aller chercher du bois. Égare à elle si elle ose retourner sans rien.
Une élève qui fait de la corvée des bois à l'heure des cours? Mais pourquoi ses parents lui font travailler pendant que ses camarades sont à l'école?
Eh, pardon, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est aux parents. Il me semble que c'est la fille de Hajia Maimouna, la femme d'Al-Hajj Maïkoudi.
Ah, je vois, la petite Nadia, une fille très brillante. Mais ce n'est pas sa propre fille au fait, c'est la nièce de son mari. Je me rappelle qu'elle a fait venir la petite parce que dans son village, il n'y a pas de collège.
À cette allure, la fille risque d'être exclue de l'école. Je trouve cette attitude irresponsable. Mais attends, qu'est-ce dit Al-Hajj Maïkoudi dans tout ça? Il ne peut pas réagir.
Qu'est-ce qu'il sait même de ce qui se passe dans la maison? Lui, dès qu'il sort le matin pour le marché, il faut tard dans la nuit pour qu'il rentre chez lui. C'est la femme qui gère tout.
Pauvre petite. Mais moi, en tant qu'enseignante, je propose qu'on rende une petite visite à Hajia Maimouna. Tu es partante?
Et comment? Allons-y.
Hé, hey, Allah. C'est pas bon.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Entrez.
Bonjour Hajia. Comment vont les enfants?
Quel plaisir de vous recevoir chez moi. Les enfants sont à l'école. Mais que puis-je faire pour vous? Eh, pourquoi vous n'êtes pas à l'école, madame la maîtresse?
Ce n'est pas l'objet de notre visite. Mais tu disais que les enfants sont à l'école et je viens de voir Nadia faire des corvées au détriment de ses études. Vous trouvez cela normal?
Hé, hey, madame, comment osez-vous m'attaquer dans ma propre maison? La manière dont je dis que ma nièce là, ça ne vous regarde pas. Elle va même se marier bientôt. Quel kilo! Partez vite avant que je n'oublie le sens de l'hospitalité.
Hajia Maimouna, calme-toi. On n'est pas ici pour te dire quoi faire, mais juste pour vous dire qu'un enfant a ses droits, surtout dans le domaine de l'éducation.
Parce que vous avez la craie en main, vous pensez être supérieur à moi? Les enfants sont des enfants. Ils n'ont aucun droit. Ils doivent faire ce que leurs parents leur dictent. Point barre.
Hajia, il t'incombe de protéger Nadia comme ta propre enfant. C'est ce genre de traitement qui pousse certaines à fuguer et être exposées à tous les dangers, viols, enlèvement et quoi sais-je encore?
Subhanallah, moi ce n'est pas mon intention, pas du tout.
C'est pas fini. Le Niger a ratifié plusieurs conventions internationales et régionales qui protègent l'enfant pour son bien-être. Le gouvernement a aussi adopté en 2016 un décret portant sur la protection, le soutien et l'accompagnement des jeunes filles en cours de scolarité. Ces décisions ont été prises tout ce qui peut causer l'abandon de l'école, notamment le mariage d'enfants, l'éloignement des établissements scolaires ou l'insuffisance des familles d'accueil.
C'est bon. J'ai vraiment compris. Je ne vais pas avoir tout ça sur ma conscience. Désormais, elle ira suivre ses cours comme ses cousins. Nadia, viens ma fille. Je t'accompagne au collège.
Hajia, tu es sûre d'avoir tout compris? Sinon, je peux aller expliquer tout cela à Al-Hajj Maïkoudi, hein? N'est-ce pas, Binta?
Ah, on va aller quand même.
Non. Ce n'est pas la peine. Merci à vous d'avoir pris la peine de me conseiller sur mes ajustements.
Je t'en prie, Hajia Maïmouna. Peut-être que c'est elle qui t'amènera à la Mecque.
Machallah. Eh bien, que Dieu fasse qu'il en soit ainsi, vraiment.
Amen, 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 Aja. Merci vraiment.
Merci à nos invités. Merci également à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent à travers nos 46 radios partenaires. Merci aussi à Mustapha Ayouba qui a assuré la vidéo et Issa Laoli qui a assuré le son. C'est ici que je vous dis au revoir et à bientôt.
Espace femme.
Espace femme.
Espace femme.
Espace femme.
Espace femme. Espace femme.